SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Cette semaine, nous avons fêté la Journée internationale des droits des femmes. C'est donc logiquement que nous allons aujourd'hui parler d'une femme d'influence et de pouvoir en la personne de Yael Braun-Pivet. À 53 ans, elle est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale.
Bonjour, vous le savez certainement, députés et sénateurs ont été réunis en congrès à Versailles le 4 mars dernier pour se prononcer sur l'inscription de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est à la présidente du congrès que revenait la responsabilité d'annoncer les résultats. C'est donc Yael Braun-Pivet, actuelle présidente de l'Assemblée nationale, qui s'en est chargée.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Elle est le quatrième personnage de l'État par ordre protocolaire.
Oui, elle occupe un poste clé puisqu'il arrive après celui de président, de premier ministre et de président du Sénat. Son arrivée est d'autant plus notable qu'elle est la toute première femme à avoir été élue au perchoir. Son élection s'est déroulée le 28 juin 2022. Elle a gagné au deuxième tour grâce notamment à l'abstention du Rassemblement national. Dans son premier discours, elle a salué celle qui l'avait précédée. Je cite « Je voulais vous lire quelques lignes publiées le 12 avril 1849 dans les colonnes du quotidien Le Peuple. Un fait très grave sur lequel il nous est impossible de garder le silence s'est passé à un récent banquet. Une femme a sérieusement posé sa candidature à l'Assemblée nationale. Cette femme s'appelait Jeanne de Rouen. Elle était journaliste, avait 44 ans et sous le poids des moqueries avait finalement dû retirer sa candidature, renonçant ainsi à son ambition pourtant si légitime. Et il aura fallu attendre un siècle, soit le 21 octobre 1945, pour que les premières femmes entrent dans l'hémicycle et ce n'est que 77 ans après qu'une femme, Yael Braun-Pivet, en devenait présidente.
Son ascension politique a été très rapide, si ce n'est foudroyante.
Elle entre vraiment en politique en adhérant à En Marche, le parti d'Emmanuel Macron qui ouvre largement ses portes aux femmes. C'était il y a 8 ans seulement. Elle est élue députée de la 5e circonscription des Yvelines un an plus tard Et le 29 juin 2017, elle est élue présidente de la commission des lois. Un novice, elle connaît des débuts difficiles avant de s'imposer. On lui reconnaît un style atypique, un travail de terrain notamment dans les prisons et on salue sa bienveillance. Elle est toutefois égratignée par l'affaire Benalla dans laquelle on lui reproche son manque d'impartialité. Elle se présente une première fois à la présidence de l'Assemblée en 2018 sans succès. 4 ans plus tard, ça passe, elle quitte le poste de ministre des Outre-mer qu'elle venait d'endosser.
Mais sa carrière n'a pas commencé avec la politique.
Absolument, on peut même dire qu'elle a eu plusieurs vies. Elle commence par des études de droit à Nanterre qui l'amènent à devenir avocate et à ouvrir son propre cabinet. Ensuite, elle vit une longue période d'expatriation avec son mari. Entre 2003 et 2012, elle vit à Taïwan, au Japon et au Portugal. De retour en France, elle reprend des études de droit commercial, mais surtout, elle se lance activement dans le bénévolat, notamment au sein des Restos du Cœur. Elle est aussi mère de 5 enfants. Inutile de vous dire que c'est aussi un métier à plein temps.
Et que peut-on retenir de ces 2 ans, comme on dit, au perchoir ?
Si son statut de femme prouve qu'un plafond de verre a été bel et bien brisé, cela ne signifie pas qu'elle a géré avec moins de poigne les affaires du Parlement et qu'elle a été spécialement épargnée, notamment par le groupe de la France Insoumise avec qui elle entretient des relations houleuses. Elle a surtout été rattrapée par l'attaque du 7 octobre. 3 jours après, elle déclarait devant l'Assemblée nationale « Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. » Alors des propos dénoncés par la gauche et Renaissance et pour lesquels elle a dû s'expliquer, soulignant qu'elle soutenait Israël et non le gouvernement israélien. Éreintée en ligne, elle a déposé 23 plaintes pour antisémitisme. Jamais je n'imaginais, en m'engageant en politique, que j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence, a-t-elle écrit sur Twitter. En France, les actes antisémites ont augmenté de 1000% en 2023, et ce à l'encontre des élus de 15%.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurer c'est sale. Ça fait des yeux plus gros que la ville. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes? Combien de fois pour avoir l'air normal?
Et c'était Pomme avec sa chanson, que j'aime beaucoup d'ailleurs, sa chanson qui s'appelle 1 million. Vous écoutez le programme en français ? Vous êtes sur Radio SBS, à tout de suite.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Deuxième partie de Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Et cette fois-ci, on va parler des agriculteurs en France, que c'est ça chauffe depuis un petit moment avec la relation entre le gouvernement et les agriculteurs. À un point culminant, la semaine dernière, Emmanuel Macron s'est retrouvé en bras de chemise au milieu de plusieurs agriculteurs à faire une explication de texte. Plus de 2 heures à expliquer ou à tenter d'expliquer ça et ses différentes politiques. On va parler de tout ça. Expliquez-nous un petit peu la situation aujourd'hui avec... la grande famille des agriculteurs en France.
Alors c'est très bien parce qu'il y a la réponse en fait dans votre question, Christophe, comme souvent
c'est
d'ailleurs.
C'est un métier.
Il n'y a pas une grande famille des agriculteurs.
Exactement.
Et c'est aussi ça la difficulté qu'a eu Emmanuel Macron à ce salon de l'agriculteur, c'est qu'on ne parle pas de la même manière aux agriculteurs qui ont du mal à faire tourner une ferme avec des bovins qu'on ne parle aux grands céréaliers d'Île-de-France qui sont plus des industriels que des agriculteurs.
Et ça pose en question le rôle du syndicat agricole, la FNSEA, pour qui il agit, comment il est financé. Tout ça, ça met aussi un peu en exergue cette position dominante du syndicat principal de l'agriculture.
Et c'est aussi la question de la représentation et de la défense de votre secteur par un groupe mandataire. Est-ce que, encore une fois, la FNSEA représente vraiment la diversité des profils d'agriculteurs, de céréaliers, etc. Et la réponse, elle est non, Christophe.
Oui, je pense que la réponse, elle est assez claire, c'est non.
Elle est non, la réponse. Et puis, donc ça, c'est le premier élément. C'est que c'est compliqué, malgré l'appellation commune et cette espèce de parapluie qu'est le salon de l'agriculture, de parler d'une seule voix. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, Christophe, c'est qu'il y avait déjà des braises de la colère de certains groupes. Donc en fait, Emmanuel Macron, quand il va au salon de l'agriculture, il n'y va pas en terrain totalement neutre, il est attendu. Et puis peut-être un troisième élément, hein, n'est pas Chirac
qui veut
Christophe. Et donc malgré cet exercice qui, encore une fois, est très courageux, là je crois qu'il faut le mettre aussi au bénéfice du président de la République, prendre comme ça, avoir une discussion à bâton rompu, peut-être un peu préparée, mais grandement quand même improvisée, puisque les questions n'étaient pas prévues, etc., qu'il a pris les questions comme cela.
Enfin, je suis tenté de dire, je ne fais pas le défenseur d'Emmanuel Macron en aucun cas, mais se dire préparé, heureusement. S'il était arrivé pas préparé, ça m'aurait plus ennuyé qu'autre chose, honnête.
Non, mais vous avez raison, mais vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est un petit peu toutes les difficultés. Et puis, un deuxième niveau de lecture, Christophe, qui pour le coup, lui, n'est pas franco-français, c'est que finalement, avec cette agriculture, avec ce secteur agricole en France, on en revient toujours aux contraintes, aux normes imposées par Bruxelles. Au remboursement aussi, il y avait une demande d'un an de pause de remboursement qui a été faite par les agriculteurs, qui a été refusée par
Emmanuel Macron. La fameuse année blanche.
Donc tout ça aussi, c'est en toile de fond. Toutes ces questions autour de la politique agricole commune européenne, des subventions européennes, de la concurrence déloyale, des appellations d'origine garantie. Et ça, je fais juste un petit pont, comme on aime bien en faire, d'Europa Voice. C'est quelque chose aussi qui fait que les accords de libre-échange sont actuellement en fait un peu à l'arrêt, Christophe, entre
on n'en parle plus beaucoup en fait. Hein.
Exactement, entre l'Union européenne et l'Australie. On était très optimistes en 2022, en 2023. Et puis là, il y a toutes ces questions-là de marché inondé par des produits qui ne répondent pas aux mêmes normes, qu'elles soient sanitaires, légales, d'appellation d'origine contrôlée. Et notamment l'accord de libre-échange qui concerne peut-être un peu plus nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS entre l'Union européenne et l'Australie est un peu au point mort. Donc vous voyez, la question de l'agriculture, il y a effectivement un niveau très national sur des groupes d'intérêts qui ont finalement assez peu de choses en commun, et il y a toujours ces questions européennes qui font que c'est très très difficile aussi d'avoir le curseur totalement entre les mains de la France pour gérer les différentes réformes, etc. Malgré, et ça, je crois encore une fois, il faut le mettre au compte du président de la République, du gouvernement Attal, mais des gouvernements précédents, malgré une certaine proactivité et un certain dynamisme sur les lois agricoles spécifiques. Je pensais notamment à la loi Egalim, on parle d'une quatrième mouture de cette loi. Donc voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mais c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Et puis, il y a aussi d'une certaine façon... toujours ces restes un peu de gilets jaunes qui prennent d'autres noms, mais qui ressortent de la même contestation populaire.
Mais ça, on en revient et on fait un lien avec la première partie d'Europa Voice. Un des grands trublions de tout ça, c'est aussi Bardella. Parce que Bardella, lui, il est presque sur le point d'enfoncer quelques portes ouvertes qui font plaisir aux agriculteurs. Si cela est applicable ou pas applicable, ça, c'est complètement une autre discussion. Mais il y a aussi cet enjeu de ces élections européennes qui sont autour de cette politique agricole commune qui ont un impact envers la France. Il y a aussi un autre point que je voulais voir avec vous. On est quand même content que les Britanniques soient plus là, parce que eux, ils étaient plutôt contre la politique agricole commune. Ça, s'il y a un point qui est clair, c'est que la chose n'aurait pas été la même, la donne n'aurait pas été la même avec les Britanniques à l'intérieur de l'Europe.
Alors, je vous rejoins totalement sur ce point, Christophe. Effectivement, c'est peut-être un plus pour l'agriculture française.
On peut dire que ça aurait été le bordel.
Ça aurait été plus compliqué. Sur la question de l'extrême droite, effectivement, Bardella, mais aussi Zemmour, d'une certaine façon, veulent capitaliser sur ce mécontentement d'une certaine partie de la population, parce que ça sert aussi, et là on fait un peu de communication politique, mais ça sert aussi leur narratif politique, leur histoire et ce qu'ils veulent faire de ces territoires ruraux, délaissés, complètement enclavés, jamais abreuvés des bonnes subventions qui vont toujours au même, etc. Donc oui, la chance qu'ont encore les partis, j'allais dire, de gouvernement, les partis républicains, c'est que pour l'instant, les mêmes recettes produisent les mêmes résultats et que, jusqu'à preuve du contraire, l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir en France, malgré une progression inquiétante lors des 3 et 4 dernières élections présidentielles. Mais effectivement, il y a cette volonté de Bardella et de récupérer ce mécontentement. Et puis, rappelons-le encore une fois, hein, parce que c'est un énorme événement de politique nationale, malgré une fréquentation légèrement en baisse, hein, important aussi de le signaler, mais à peine 2%, il y a encore un champ, même sur ce sujet-là, qui est l'agriculture, il y a un champ laissé totalement vacant par la gauche.
Mais totalement, ouais, totalement.
Donc même au salon de l'agriculture, on en revient à une opposition Macron-Bardella, Macron-extrême droite. Donc forcément, oui, il y a un écho qui est donné à la venue sur site de Jordan Bardella, de Marion Maréchal Le Pen, etc.
Absolument. Voilà, c'était Europa Voice pour cette semaine. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément.
Juliette Armanet, qu'importe, cette chanson qui faisait partie de notre sélection du mois précédent. J'aime tellement cette chanson que j'ai décidé de la rejouer aujourd'hui, en ce dimanche. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
J'ai le plaisir de recevoir Yannick Laurie, acteur voix off et présentateur, en marge de sa prestation dans une pièce de théâtre 8 qui s'écrit WIT. Yannick, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Bertrand.
On vous présente en fait en trois mots sur votre site. Parler, monter, participer. Speak, show, share. Parlez-nous de vous, brièvement, et de ces trois mots qui vous représentent.
Je m'appelle Yannick, ça fait 15 ans que je vis ici en Australie. Je suis anglais, ma mère elle est française. Ma formation à l'école, j'étais assez doué en langue moderne, bien sûr parce que ma mère elle est française, je parlais très bien français, l'allemand, l'italien, mon père il est sicilien, alors... les langues étaient et s'exprimaient à la maison, c'était toujours notre manière, soit en français, soit en italien, surtout en anglais. On parlait tout le temps, on était toujours en train de traduire, même quand on était à table, entre les trois langues. Alors je pense que s'exprimer, c'était toujours, ça faisait toujours partie de ma formation. Mes parents étaient tous les deux enseignants et alors eux ils aimaient bien montrer expliquer comment les choses marchaient à leurs étudiants Et je pense que ça, j'ai bien hérité cette capacité, ce don aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais très jeune, les besoins des autres étaient très importants pour moi. Je comprenais pas pourquoi il y avait des gens dans notre société qui avaient beaucoup et ceux qui n'avaient pas assez. Alors partager, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien faire au niveau social, mais aussi avec ce que j'apprends. J'aime comme mes parents, enseigner, partager ce que j'ai pu expérimenter dans la vie avec les autres.
Et vous allez jouer dans la pièce 8, c'est une pièce qui a gagné le prix Pulitzer. Mais il y a quelque chose de troublant dans la description de cette pièce, parce que bon, il s'agit de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, la vie et la mort, et puis quelque chose d'apparemment insignifiant, je dirais même risible, comme un point virgule. J'ai oublié de dire dans la présentation que vous êtes aussi avocat de formation, acteur de formation, conseiller en entreprise de formation aussi. Mais l'importance d'un point virgule, il n'y a que les avocats pour argumenter, se chicaner, se chamailler pour quelque chose d'aussi petit comme un point virgule par rapport à la vie, la mort, le corps et l'esprit.
En tant qu'acteur, je trouve que y a des enseignants de ce métier qui disent qu'en fait l'important c'est que on apprend les paroles et puis on arrive sur scène et on n'essaye pas de mal croiser d'autres acteurs sur la scène ou les meubles. Mais il y a aussi des enseignants du métier qui disent qu'en fait vraiment chaque mot, chaque lettre, chaque moment d'hésitation, chaque point d'exclamation, chaque virgule, c'est vraiment très important. Et ça change en fait ce que veut dire l'auteur du texte. Il y a alors deux écoles du métier du drame, des arts dramatiques, quoi. Moi, je dirais que je suis plutôt du côté où chaque mot, chaque lettre, chaque façon de s'exprimer dans le texte est important. Parce que dans la vie, soit il n'y a rien qui est important, soit chaque moment, même les choses vraiment de la vie quotidienne qu'on ignore, qui ne fait le moindre impression sur le cerveau, sont importants. Et sont des moments, en fait, où on peut vraiment connaître la vie d'une façon meilleure, connaître d'autres gens d'une façon meilleure. Alors pour moi, dans la vie et aussi comme acteur, c'est important de se concentrer sur tous les moments que la plupart des gens ignorent, parce que c'est là où on trouve la beauté, c'est là où on trouve en fait les raisons et la signification, voilà.
Donc, on trouve la signification dans des détails comme un point virgule. D'ailleurs, la pièce de théâtre s'écrit invariablement avec un I-8, W-I-T, ou W, point virgule, T. Quel rôle vous jouez dans la pièce?
Je joue deux rôles, en fait. C'est ma compagnie de théâtre, Clock and Spiel Productions, qui monte cette production. Ça fait 8 ans qu'on... on présente des pièces de théâtre à plusieurs théâtres à travers non seulement Sydney, mais à Melbourne, Canberra et Adelaide aussi. Et alors moi, j'ai établi cette compagnie en 2015 et je joue toujours un rôle dans chaque pièce qu'on présente. Cette fois-ci, je joue le rôle de Dr. Kalikian. C'est un chirurgien, c'est un expert au niveau médical. Et je joue aussi le rôle de Mr. Baring. C'est le père, en fait, de notre protagoniste qui s'appelle Vivian Baring. Dr. Kalikian, il est chirurgien. Il est vraiment à un niveau très haut de sa carrière. il est expert en ce qui concerne le cancer. Notre protagoniste, Vivian Baring, elle est professeure d'anglais. Elle est experte encore dans son champ. Et c'est sur les... Ça, c'est, je dis ça en anglais, « The Holy Sonnets of John Donne ». Et puis, quand elle reçoit des mauvaises nouvelles concernant sa santé, elle doit vraiment trouver le moyen de devenir expert dans son champ. Et la poésie de John Donne, ça s'agit de la vie et de la mort. Et pour elle, c'est important d'enfin comprendre la vie et la mort, pas de façon académique, mais de façon réelle. Pour moi, le chirurgien Dr. Kalikian, dans mon rôle, il n'est pas arrivé. Lui aussi, il est expert en la vie et la mort, mais pour lui, c'est vraiment un jeu académique. Il n'a pas, à ce moment-là où on le rencontre dans la pièce, il n'a pas pu vraiment comprendre ce que Vivian, le protagoniste, a compris. Qu'en fait, avoir cette capacité académique, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour vraiment comprendre la vie et se comprendre soi-même.
Quand vous dites que vous jouez deux rôles, moi, je viens juste de regarder votre répertoire sur votre site, le répertoire des différents rôles que vous jouez, des voix que vous pouvez reproduire. J'aurais voulu que ce soit au cinéma où on peut vous maquiller complètement parce que c'est impressionnant ce que vous faites, des accents différents. Et si on ferme les yeux, on s'imagine que c'est des personnes... Bon, sur écran, on dirait que c'est des personnes différentes. Pourtant, c'est toujours vous, quoi.
C'est toujours moi, mais c'est le rôle d'un acteur, c'est en fait de trouver une façon... avec les dons qu'on a, d'exprimer la voix d'un caractère pour vraiment pouvoir émouver les gens ou montrer les gens une façon de vivre ou une partie de la vie qu'ils n'avaient pas compris ou qu'ils n'avaient pas vécu avant. Alors, c'est vraiment, c'est un joie pour moi de faire ce que je fais dans la vie.
Je suis quand même intrigué aussi, je peux pas m'empêcher de le dire ici, par votre formation. Vous êtes avocat de formation, ça c'est votre première formation. Et puis, vous avez fait aussi une formation en art dramatique et puis une formation en présentation professionnelle comme counselor et tout ça. Mais être avocat tout seul aurait suffi parce qu'un avocat, ça joue toujours un rôle, essayer de se mettre dans la peau du diable et tout ça, c'est déjà un peu dramatique, quoi.
Oui, vous avez raison. On pourrait regarder mon CV et se dire bon bah voilà quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui aime bien travailler, qui veut beaucoup étudier. Ou on peut le regarder et se dire mais en fait c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire dans la vie. Et pour moi c'est peut-être quelque chose entre les deux. Quand j'étais jeune, c'était bien sûr la même chose dans tous les pays occidentaux. Mais quand j'avais 18 ans, j'avais des idées de ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai eu des bonnes notes quand j'étais à l'école. Alors je me suis dit, je pourrais étudier le droit en Angleterre et devenir avocat. J'ai fini ma licence qui était en droit et en français. M'a donné l'occasion de vivre pendant un an et demi, 18 mois à Paris. Et j'ai bien aimé cette partie de mes études. Mais après avoir fini ça, je me suis dit, en fait, je ne veux pas être avocat. J'avais toujours ce rêve d'être acteur. Alors, j'ai bien économisé en travaillant à la même temps dans un bureau. Ce n'est pas vraiment un boulot qui m'intéressait, mais ça m'a donné l'occasion de, deux ans plus tard, d'aller à une école des arts dramatiques à Londres. Et puis, j'ai pu travailler pendant des années en tant qu'acteur de théâtre, de télévision et de film. J'ai pu aussi établir une carrière en tant que voix-off pour les documentaires, pour les livres qu'on écoute, comme on dit en anglais, audiobooks, les commerciales et les narrations pour les business. Mais je me suis dit, en fait, la raison pour laquelle je fais ce que je fais dans la vie, c'est vraiment pour partager, comme vous avez bien expliqué au début, montrer, parler, partager, c'est vraiment les trois mots qui sont au cœur de ce que je fais dans la vie. Alors, pendant la période de Covid et les lockdowns qu'on a eu ici en Australie, je me suis mis à étudier un peu la psychologie et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le fait que ça me donnait la façon et la capacité de comprendre à nouveau les raisons pour lesquelles les gens agissent dans la façon qu'ils agissent. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer mes études. Et l'année dernière, je viens de finir mon master's in counseling. Alors maintenant, une journée par semaine, je travaille en tant que psychologue ou counselor et j'ai deux ou trois clients. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur de pouvoir travailler dans cette façon. Et en fait, je pense que ça m'aide en tant qu'acteur à vraiment comprendre ce qui se passe en dessous de la peau, quoi, avec les gens, avec les caractères que je représente.
En tout cas, j'ai vu un échantillon de votre travail, c'est assez impressionnant. Vous naviguez aisément entre le mode relax, casual, au mode corporate, au mode des affaires. Vous le faites avec aisance et vous convainquez, en fait, sur écran aussi, et à l'oreille aussi, c'est pas seulement visuellement, mais aussi à l'oreille. Moi, j'aurais bien voulu voir la pièce en théâtre ou au cinéma ou même en audiobook, parce que la façon dont vous changez de rôle, de voix, de ton, d'accent, impressionnant.
C'est très très gentil de votre part, Bertrand, et je voulais dire que bien sûr j'aimerais bien que vos auditeurs aient l'occasion de venir et expérimenter le spectacle de WIT, mais en fait s'il y a vos auditeurs qui n'ont pas l'occasion de venir ici à Sydney pour voir WIT, il y a en fait un film de 2004 avec Emma Thompson qui est excellent. C'est un peu Hollywood, mais quand même vraiment, c'est un film de cette très belle pièce par Margaret Edson. Je pense que on peut le trouver sur un service d'abonnement où ils ont des films avec Emma Thompson. Je conseille vraiment vos auditeurs s'ils n'ont pas l'occasion de venir voir cette pièce de le trouver sur les services subscription où ils peuvent trouver les films comme ça.
Yannick, merci beaucoup pour cet entretien avec SBS French.
Merci Bertrand.
Tandem, seul sur un tandem, personne à qui dire je t'aime.
Emma Peters et sa chanson Traversée, qui fait partie de notre sélection musicale. Allez, on fait une courte pause, on se retrouve dans le reste du programme.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on est avec Lucie Dickens. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors Lucie Dickens, vous êtes là pour nous parler, on va parler d'éducation, mais surtout on va parler du guide, du kit pédagogique que vous venez de lancer. Vous avez participé à la création de ce kit pédagogique, on va en parler. Ce guide s'appelle N'oubliez jamais. C'est basé sur l'histoire d'Esther Wise, qu'on connaît bien ici à SBS, puisqu'on l'a eu en entretien. On a fait une très longue interview avec elle, d'ailleurs avec Marianne Murer dans notre équipe. Expliquez-nous l'importance de créer un kit pédagogique justement autour de cette histoire. On rappelle, elle a survécu à l'Holocauste, elle est australienne, elle est aujourd'hui à Melbourne et elle a 99 ans.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré Esther Wise à la fin de l'année 2022, grâce à notre consul honoraire, Madame Myriam Waboudé-Wiley, qui m'a mise en contact avec elle, de par mon rôle au sein de l'AFTV, l'Association des professeurs de français dans le Victoria. Et donc, étant moi-même enseignante de français langue étrangère depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai vraiment compris qu'il y avait là un grand potentiel de pouvoir utiliser l'histoire d'Esther et de pouvoir, à travers notre travail dans l'éducation, de pouvoir faire passer un message très important avec nos élèves de l'âge de 14 à 18 ans. Donc, tout de suite, j'ai trouvé très important de créer une ressource autour de son histoire pour que justement cette partie de l'histoire qui n'est pas très très enseignée en Australie du point de vue d'une perspective française pourrait justement avoir la place ici d'être racontée et d'être utilisée pour que ce qui s'est passé en France à cette époque soit expliqué aux jeunes Australiens. Et surtout que cette triste période ne soit pas oubliée.
Oui, alors justement, je voulais qu'on fasse un point là-dessus. Vous dites que ce n'est pas vraiment enseigné, en tout cas pas en profondeur. C'est vrai que après moi, je ne peux pas parler de comment est l'école aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que dans mon éducation, il y a un moment déjà, mais l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, les atrocités autour de tout ça, c'était une des pierres angulaires de l'éducation de l'histoire en France, avec vraiment cette idée de ne jamais oublier ce qui s'est passé. Je pense qu'on nous l'a inclus quand on est des Français de notre génération. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui en France, mais il semble que ce n'est pas vraiment la même chose en Australie. Comment vous, qui êtes professeur dans une école australienne, on ne va pas la nommer parce qu'on ne veut pas forcément pointer du doigt chaque école, etc. Mais généralement, comment cette partie de l'histoire est enseignée aux petits Australiens?
Eh bien, elle s'inscrit dans le curriculum australien, évidemment, dans les années 9, 10 en particulier, et c'est vraiment une approche australienne, c'est-à-dire comment est-ce que les troupes australiennes ont participé à la Deuxième Guerre mondiale.
Avec aussi cette glorification, entre guillemets, des Anzacs, qui peut toujours un peu surprendre quand on vient de l'étranger, mais qui est vraiment, alors pour le coup, au cœur des valeurs australiennes.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, tout ce qui est la partie perspective française, le rôle de la résistance, l'Holocauste...
Le rôle des femmes.
Le rôle des femmes n'est pas vraiment abordé en profondeur. Et moi, étant comme vous, ayant grandi en France, je sais aussi, et probablement à la même période, je sais aussi que, par exemple, l'événement du Veldiv n'était pas quelque chose qui était expliqué de façon très explicite dans nos cours d'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que, moi-même, en ayant émigré en Australie, j'ai vraiment appris un peu plus sur cet événement récemment, dans les dernières vingtaines d'années. Évidemment parce qu'il y a eu également des films comme La Rafle qui ont pu parler un peu plus de cet événement. Et comme Esther Wise a perdu sa famille dans l'événement du Veldiv, j'ai trouvé que c'était très important d'utiliser son histoire pour justement parler un peu plus de cet événement.
Comment c'était pour vous de rencontrer Esther Wise, parce que c'est une personne incroyable. Enfin, son histoire est incroyable, la façon dont elle la raconte, c'est incroyable. Et de penser qu'aujourd'hui, on a encore... Ce lien physique avec ces événements, vous le dites, la rafle du Veldiv. Enfin, c'est presque incroyable et impensable aujourd'hui encore qu'on puisse avoir ce lien.
Tout à fait. Et en fait, quand nous avons filmé, quand nous avons tourné le documentaire en février 2023, c'était un moment extrêmement émouvant. On s'est retrouvé à quelques personnes dans la chambre d'Esther à lui poser des questions et la laisser raconter de façon très sincère. Et pour elle, c'était, en fait, elle nous a expliqué qu'elle révélait des choses qu'elle n'avait même pas elle-même révélées à sa famille, à sa propre famille australienne, parce que c'est une génération, il faut pas oublier, c'est une génération qui ne parle pas forcément de façon ouverte de ces choses-là, de ce passé. Et donc c'était avec énormément d'humilité que nous avons été à l'écoute d'Esther, de son histoire. Et j'espère qu'en regardant le documentaire que nous avons fait, qui fait partie de la ressource que nous avons produite, que vous ressentirez aussi les émotions qu'elle transmet.
Alors, c'est un kit pédagogique qui est à la fois destiné, je suppose, aux enseignants, aux élèves. Est-ce qu'il est accessible au plus grand nombre? Et surtout, en fait, ma question cachée derrière, comment on fait pour l'avoir?
Tout à fait. Donc, nous avons décidé au sein de l'AFTV, donc je fais partie du comité et je suis la vice-présidente de cette association qui est à but non lucratif. Nous avons décidé de partager cette ressource sur notre site avec tous les profs de français du Victoria, mais également partout dans le monde. Donc, c'est une ressource qui est accessible simplement sur notre site et qui comprend donc un documentaire de 20 minutes. Dans ce documentaire, c'est simplement Esther qui raconte son histoire et nous avons décidé de mettre cette vidéo avec des sous-titres en français pour aider justement les élèves qui auraient des difficultés à comprendre la langue française à pouvoir également avoir le soutien par écrit avec les sous-titres. Nous avons aussi la vidéo avec des sous-titres en anglais pour pouvoir justement permettre peut-être à des professeurs d'histoire dans le Victoria ou partout dans le monde qui veulent exploiter ce documentaire et créer leurs propres ressources à pouvoir y avoir accès. Et le documentaire est également disponible sans sous-titres pour justement des élèves d'un plus haut niveau qui veulent essayer de comprendre le documentaire sans soutien de sous-titres. Ensuite, nous avons créé deux livrets, un pour les professeurs et un pour les élèves, qui offrent des activités de compréhension écrite et orale, mais également d'exploitation de documents visuels et des activités de tâches écrites. Donc, ces activités sont proposées à deux niveaux, pour les années 9, 10 et pour les années VCE 11 et 12. Et les professeurs seront donc à même à décider quel niveau correspond le mieux pour leurs élèves. Et je suis très, très contente de la mise en page et du format que nous avons choisi parce que les professeurs pourront utiliser ça de façon interactive en téléchargeant le PDF en le partageant sur OneNote avec leurs élèves, par exemple, ou bien simplement l'imprimer. Donc, il y a énormément de choix sur la façon dont les professeurs peuvent utiliser ce kit.
Pour vous, personnellement, ça a été un travail de longue haleine. Ça a mis du temps pour arriver jusqu'à l'inauguration, entre guillemets, par l'ambassadeur de France. Parlez-nous un petit peu le cheminement pour vous, juste personnel, à quel point vous avez été proche de cette histoire.
Ça a été une histoire, de façon personnelle, ça a été extraordinaire pour moi de faire tout ce travail qui a pris au total peut-être 14 mois, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous volontaires, tous bénévoles sur ce projet. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était de travailler avec des jeunes étudiants. Donc, nous avons vraiment les seules personnes qui ont reçu un support financier, c'était vraiment nos étudiants de l'université de Swinburne, une équipe de 3 jeunes garçons qui sont en 4e année à l'université de Swinburne et qui font des études cinématographiques. Donc, ils veulent devenir de jeunes réalisateurs. Et donc, pour eux, ça c'était un projet qui s'est inscrit un peu en dehors de leurs études et ils ont pu vraiment faire un peu ce qu'ils voulaient. Et j'ai fait partie de cette équipe de production, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, c'était vraiment très intéressant. Un des jeunes cinéastes s'appelle Antoine Hobbs. Il a une maman française et un papa australien. Il a fait ses études à Caulfield Junior College et à Glenara College. Donc, il a cette identité binationale comme la mienne. Et nous avons, Antoine et moi, pu vraiment développer un lien très fort avec Esther dès notre première rencontre, ce qui a permis, j'imagine, à Esther de vraiment s'ouvrir et avoir une grande confiance en notre projet, en notre travail. Et nous gardons maintenant encore des liens très forts avec Esther. Ce qui a été formidable aussi, c'est de travailler avec deux jeunes filles étudiantes à l'Université de Melbourne dans la faculté d'études de français et de linguistique. L'une s'est occupée de tout ce qui était les sous-titres et la transcription de la vidéo. Et l'autre s'est occupée avec moi de tout ce qui était la mise en page et le design et la relecture du kit. Donc, j'ai vraiment apprécié travailler avec ces jeunes, cette nouvelle génération qui, il ne faut pas l'oublier, ont l'âge de entre 20 et 25 ans, qui est l'âge qu'avait Esther lorsqu'elle a émigré en Australie dans les années 50. Et j'imagine que le fait qu'ils aient le même âge qu'Esther à cette époque a vraiment aidé à ce que ces jeunes aient une connexion vraiment authentique et très, très forte pour comprendre ce que son parcours a dû être à cet âge-là, d'immigrer en Australie toute seule, sans connaître un mot d'anglais, et ayant perdu sa famille, en laissant sa famille derrière elle en France. Donc, ça, c'était formidable. Et puis, pour moi, oui, j'ai toujours senti que j'avais une mission. Quand j'ai rencontré Esther et que Madame Myriam Boabouye-Wally m'a parlé d'elle, j'ai sans hésitation ressenti que c'était quelque chose que je devais faire. Oui, ça a pris du temps et du travail, mais pour moi, c'était jamais... j'ai jamais ressenti ça comme du travail. C'était une vraie passion et j'ai senti qu'il fallait vraiment faire vivre la mémoire d'Esther et son histoire. Et donc, c'est un projet dont je suis extrêmement fière.
Et elle vous a donné un petit peu de retour sur Esther en elle-même. Qu'est-ce qu'elle en a pensé?
C'est une femme très déterminée qui m'a toujours dit, par exemple, oui, il faut que ce titre de... Promettez-moi, Lucie, que vous allez garder le titre. N'oubliez jamais. Elle a toujours pensé, est-ce que c'est vraiment nécessaire que les jeunes entendent de tout ce passé douloureux que j'ai eu? Et j'ai toujours insisté en lui disant absolument, Esther. Et évidemment, récemment, dans le contexte des événements depuis septembre l'année dernière, tout ce qui se passe en Palestine et en Israël, même si ce kit n'a aucune portée politique ou religieuse, j'ai vraiment insisté pour que on finisse ce projet et qu'elle comprenne aussi, et elle en est consciente, que l'importance de ce projet dans le contexte actuel avec la montée de l'antisémitisme a vraiment un message encore plus important et fort à transmettre. Donc, pour elle, quand elle a vu le kit, quand j'ai imprimé le kit pour elle, pour qu'elle le voit, quand elle a vu le documentaire, elle a été extrêmement émue et elle est extrêmement reconnaissante. D'ailleurs, je lui ai demandé d'écrire une dédicace et si vous ouvrez le kit et après la couverture, vous verrez sa dédicace qui vraiment résume le message que nous voulons faire passer à travers ce projet.
Voilà, absolument. Rappelez-nous un petit peu les détails de où on peut trouver le projet en lui-même.
Donc, c'est sur le site de l'AFTV, donc aftv.vic.edu.au. Et sous la fenêtre des ressources pour les professeurs, vous trouverez le kit. Mais je pense qu'il est également sur notre page d'accueil sur ceci.
On mettra tous les détails sur notre page pour ce podcast. La FTV, c'est bien entendu l'association des professeurs français dans le Victoria. C'est ça?
C'est ça.
Professeurs de français dans le Victoria.
Français dans le Victoria.
La sémantique est importante. Merci Lucie.
Merci beaucoup Christophe. Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Kouyaté et Kan Kellen, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet à tout instant, sbs.com.au/french. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.